Chers amis, bonjour, bienvenue dans Planche, Cases et Bulles, où je serai tout seul aujourd'hui. Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe, comme disait Boz, endormi, puis après ça s'est mieux passé. Et d'ailleurs moi aussi, d'ailleurs je ne suis ni veuf, ni seul, ni endormi, et je retrouverai Christol Siek la semaine prochaine. Cette semaine, on va vous parler, enfin moi tout seul d'ailleurs, de bandes dessinées biographiques, puisque nous allons examiner successivement les ouvrages consacrés à Auguste Escoffier, maître de la cuisine moderne, à Bernard Nathan, l'homme le plus détesté de France, et enfin aux prisonniers de la forteresse de Colditz. Alors, rien à voir, mais malgré tout, voilà, cette veine biographique est tout à fait fascinante. Quand j'étais petit, et vous aussi, pour une partie des auditeurs qui m'écoutaient, la biographie en bande dessinée, c'était Don Bosco par Jigé, voilà, et Baden Powell par Jigé. C'était les grandes biographies, en fait, éditées par Dupuis, éditeur catholique, si je ne m'abuse, à l'époque, en tout cas à Marcinelle. Et on avait très peu, en fait, de bandes dessinées réellement biographiques. Et puis, peu à peu, évidemment, le genre s'est développé. Mais voilà, une fois qu'on avait lu Baden Powell et Don Bosco, on avait quelques maigres albums à se mettre sous la dent, mais surtout, il y avait les belles histoires d'Oncle Paul et l'équivalent dans le journal Tintin, puisque les belles histoires d'Oncle Paul paraissaient dans Spirou. Donc Tintin avait lui aussi ses histoires en quatre pages, en quatre planches, où on nous racontait les exploits d'un aéronaute, d'un ingénieur, d'un héros de la guerre, d'un héros d'une des guerres. C'est pas comme si elles avaient été si peu non si nombreuses, mais malgré tout, voilà, il y avait de quoi varier de Napoléon à 39-45, et parfois en faisant quelques tours du côté du Moyen Âge. Et puis voilà, la bande dessinée s'est rendue compte évidemment qu'elle était un formidable outil pédagogique. D'ailleurs, Christiane Taubira, dans son admirable message Facebook avec lequel elle a salué les 25 ans de sa propre loi, a appelé à célébrer les 25 ans de cette loi mémorielle sur l'esclavage, qui n'insiste que sur la traite négrière européenne, au lieu d'insister sur l'intégralité des traites, y compris la traite arabo-musulmane, qui a commencé bien avant que la traite européenne ne s'installe et qui a continué d'ailleurs à nourrir la traite européenne et qui d'ailleurs a continué après la traite européenne jusqu'à ce que les Européens finissent par revenir en Afrique en expliquant que quand même il fallait peut-être mettre fin aussi à l'esclavage en Afrique, car ça avait l'air d'être un peu endémique. Je m'égare, mais pas tant que ça, puisque donc, le camarade Taubira a expliqué que, bien sûr, le problème de la réparation était plein et entier, et qu'il fallait qu'il y ait des lois inspirantes, il fallait qu'il y ait des textes, il fallait qu'il y ait des discours, il fallait qu'il y ait des bandes dessinées. Donc voilà, ben, si jamais quelqu'un a envie, à partir des ouvrages, par exemple, de Monsieur Grenouillot, de se lancer dans une magnifique histoire universelle de l'esclavage qui montrera d'une part que l'esclavage a été pratiqué par tout le monde, y compris ceux à qui on interdit aujourd'hui d'utiliser le terme esclave, qui serait réservé, paraît-il, en tout cas dans l'esprit des anglo-saxons, uniquement à la traite négrière partant de l'Afrique et arrivant aux États-Unis, et bien aux États-Unis et dans l'ensemble des terres avoisinantes, eh bien, voilà, il y a une magnifique bande dessinée à faire. Bon, je me suis un peu égaré très loin. Voilà, soyons francs, revenons sur Auguste Escoffier. Escoffier, tout le monde le connaît, c'est le maître de la cuisine moderne, en tout cas, c'est le sous-titre de cette bande dessinée publiée aux éditions Plein Vent. Et c'est une bande dessinée intéressante, très bien dessinée par Cédric Fernandez, qui en a aussi assuré les coloris, avec un côté documenté et presque documentaire. Et pour ça, donc, Cédric Fernandez, c'est aussi, donc, il non seulement dessine, colore, mais scénarise, s'est adjoint les services, si je veux dire, de Yvon Bertorello. Yvon Bertorello, qu'on a connu à plusieurs reprises avec des bandes dessinées historiques, avec des bandes dessinées chrétiennes. J'en parlais dans l'un des tout derniers épisodes, c'est lui qui a notamment scénarisé Extrême, donc l'histoire du groupe militaire de Haute-Montagne, en tout cas qui a participé à ce scénario. Et là, on retrouve la patte de Bertorello, c'est-à-dire cette capacité très pédagogique à mettre en avant une histoire en pointant évidemment les traits les plus saillants. Il y a une petite particularité, on en parlera à la fin, c'est qu'il y a un invité surprise qui débarque, qui débarque pour nous parler d'Escoffier, et notamment. Cette bande dessinée publiée par le groupe Plein Vent, on sent qu'elle a fait l'objet en fait d'une espèce de coproduction et d'une espèce de mécénat de la part de plusieurs entreprises, comme la Fondation Auguste Escoffier, ce qui paraît normal, les disciples d'Escoffier, la commune de Villeneuve-Loubet, où Escoffier avait installé un restaurant, mais aussi les Roquefort Société, les Chocolats Bonnat, l'eau Saint-Giron, la distillerie Combier et les vins du château de Parmay. Alors, Escoffier, qui est-il? C'est un petit pauvre qui regarde avec passion les femmes de la maison cuisiner et qui lui-même s'embauche ensuite en arrivant dans la grande ville. Il s'embauche pour être un professionnel. Et donc, il s'intéresse à tout. Il s'intéresse à la consonance, à la composition des menus. Une fois qu'il a fini de travailler en cuisine, on vous parle du 19e siècle, donc c'était pas la joie. Il va chez un pâtissier et il apprend, il apprend, il apprend. Il ne cesse en fait d'apprendre. Il est embauché au Petit Moulin Rouge. Il y revient. La guerre éclate. Il cuisine pour les soldats. Il est prisonnier, il cuisine pour tous ceux qui sont prisonniers. Et enfin, il finit par revenir, reprend le Petit Moulin Rouge, si je ne m'abuse. Et là, il devient le chef et il commence à mettre en place les grands principes de la cuisine contemporaine, c'est-à-dire non pas le fait de cuisiner avec une approche moléculaire ou de cuisiner en réinventant et en revisitant et en sublimant les papilles et en sublimant les mets et en exaltant je ne sais quoi. Non, non. En fait, il met en place la brigade. Je me permets de le citer. Il invente des outils. Il invente aussi l'idée que les commis doivent aller et venir dans un ordre bien précis en redisposant les plans de travail. Il fait en sorte que chacun soit installé à un poste. Et qu'à ce poste-là, ils deviennent excellents et commencent, évidemment, la fortune du Petit Moulin avec des inventions de plats, mousseline d'éperlan en crevette rose, soufflé de merlan à la pompadour, queue de petite langouste à l'indienne, caille à la lavallière, suprême de poulet Georges Sand, coupe d'Antigny. On sent qu'il a un talent pour trouver la manière de mêler la cuisine et la vie mondaine, de faire en sorte que Paris se sente honoré. Évidemment, il créera les pêches Melba pour la cantatrice Melba. Et il a des inventions marketing absolument incroyables sur la manière, évidemment, de composer ses menus, la manière de mettre en avant tel ou tel plat, tel ou tel denrée, avec évidemment des choses absolument remarquables. Et il finit par débarquer au Ritz. Et là, le Ritz lui offre les moyens les plus grands, c'est là où il créera la pêche Melba. Il en profite pour commencer à écrire. Il écrit notamment le guide culinaire, Aide mémoire de cuisine pratique. 943 pages de recettes de cuisine française. Évidemment, traduit immédiatement dans plusieurs langues. Les paquebots l'embauchent. Il finit même par avoir l'idée d'un repas qui sera partagé dans le monde entier. Et ça, ça fait partie de ces moments plaisants dans les bandes dessinées. Je ne suis pas certain, enfin, même si ça m'a donné le goût d'avoir envie de lire une biographie d'Escoffier pendant des pages et des pages, mais la manière qu'on a de faire surgir dans une mise en page très dynamique, assez déstructurée, mais intelligemment faite, avec des personnages dont on sent qu'ils s'inspirent de photographies, mais qui réussissent à être vivants et pas figés. Donc, il a une idée révolutionnaire, ça fait partie de ces moments plaisants. Le fait de lancer un dîner où tous ceux qui sont passés entre les mains d'Escoffier vont pouvoir, pour la Ligue des Gourmets, cuisiner le même menu au même moment dans tous les grands hôtels du monde entier où il y a l'un de ses élèves. Effectivement, le menu est un menu admirable. Je me permets de vous lire. Petite marmite béarnaise, truite gourmande aux crevettes roses, donc truite soumande, pardon, aux crevettes roses. Dodine de canard au chambertin avec nouilles au beurre noisette, agneau de pouille non, agneau de à la bordelaise, poularde de France, asperges d'Argenteuil, fraises Sarah Bernard, dessert café liqueur bénédictine. Et voilà, on rentre dans ce livre. On est assez enthousiaste de la carrière d'Escoffier, de son goût des autres. On apprend qu'il a travaillé pour les bouillons cubes, et qui a fait en sorte entre un avec Julius Magie, donc évidemment de la marque Magie, d'améliorer la chose. Il est mondialement connu, il finit par s'éteindre, et au moment où il s'éteint, on est à la page 48, et bien à la page 49, Stéphane Bern débarque. Et Stéphane Bern débarque et nous parle, par exemple, de Jeanne et Louis Privat, qui ont fondé pardon, le restaurant Les Grands Buffets à Narbonne, et qui se sont totalement inspirés de la cuisine d'Escoffier. Vous savez, il y a un menu unique, et vous rentrez dans une espèce de cathédrale de la gastronomie avec 150 fromages, et chacun peut se servir de tout à volonté. Donc, c'est une expérience assez curieuse que je recommande. Donc, il y a un côté temple de la bouffe qui est assez marqué. Ça me paraît remarquablement français. On est évidemment à 100 lieues du canon français, non pas que le canon français soit méprisable, mais là, l'idée est véritablement d'être dans un restaurant. Et personne ne chante les lacs du Connemara, on se tient bien et on n'est pas obligé de porter le béret, et c'est pas vraiment le genre. Et en fait, les grands buffets continuent à évidemment montrer tout ce que fait Escoffier, donc avec de la grande cuisine quand même, lièvre à la royale, foie gras poché dans son bouillon de cèpe, plateau royal de fruits de mer, etc. Et Stéphane Bern nous fait visiter ce restaurant, et après on a droit à une page par sponsor, voilà, une page pour le château de Parnay, une page pour le Roquefort Société. Et c'est presque surprenant, mais en même temps, c'est aimable. On a l'impression de se dire, bah oui, effectivement, Escoffier n'a réussi à tenir qu'à condition d'avoir d'excellents produits. Et voilà, ce côté, cette publicité, même pas déguisée, a un côté admirable, parce qu'on a envie, effectivement, de nous aussi, de se mettre en route en France et d'aller faire le tour des spécialités locales aimables. Voilà, une bande dessinée amusante, bien dessiné, bien conçu, sur un personnage évidemment qu'on ne connaît pas tous si on n'est pas passionné de cuisine, dont le nom nous est connu, mais dont les œuvres méritent d'être connues, parce qu'on voit bien que les grands cuisiniers d'aujourd'hui qui sont répandus sur toute la planète, qui travaillent avec des marques de surgelés, ben, en fait, Escoffier les a déjà précédés, et ce qui paraît à certains être une trahison, et malgré tout la continuité d'un des pères de la cuisine française. On va passer à quelque chose de totalement différent, évidemment, qui est la tragédie de Bernard Nathan. Bernard Nathan, l'homme le plus détesté de France, c'est une bande dessinée de Pascal Bresson, voilà, qui en a écrit le scénario. Il a énormément de titres à son actif, une cinquantaine, et notamment Simone Veil, l'immortel, vendu à 90 000 exemplaires. Voilà, et donc, ce travail de mémoire est la manière dont il entend rendre hommage, là, aux éditions Marabule, à Bernard Nathan, qui ne s'appelait pas Bernard Nathan au début, puisqu'il s'appelait, je vais retrouver son nom dans pas longtemps, c'est un nom légèrement compliqué, il s'appelait Tannenzapf, voilà, c'est un Roumain, qui s'appelle Tannenzapf, et qui participe à la guerre de 14-18 après avoir fondé, avant la guerre, une entreprise cinématographique, notamment pour couvrir des actualités. Et pendant ces guerres de 14-18, il se conduit admirablement bien, il est décoré, il sauve ses camarades, il les approvisionne en munitions, il conduit des ambulances, enfin, voilà, c'est un véritable combattant. Après la guerre, il rachète Pathé. Alors, et commence pour... celui qui est naturalisé français à ce moment-là, qui se renomme à ce moment-là Bernard Nathan, N-A-T-A-N, commence une aventure assez incroyable de mania du cinéma. C'est lui qui, avant Pathé, sent à quel point il est nécessaire de se lancer dans le parlant. Et il achète même un brevet à Technicolor, mais il n'aura pas les moyens de l'assumer pour développer le cinéma en couleur. Il fonde une société de télévision. C'est un homme de l'audiovisuel avec... cette espèce de génie de l'époque où on est encore capable d'inventer des industries, on est capable de dessiner la carte future de ce que sera l'audiovisuel, public ou non, avec des moyens évidemment ridicules par rapport à ceux d'aujourd'hui, mais qui, à l'époque, consistent à avoir des technologies de pointe et à les mettre au service du divertissement, avec d'ailleurs, chez Bernard Nathan, qui a commencé par réaliser... deux ou trois films cochons pour être distribués dans les bordels à l'époque où ils étaient autorisés, les bordels et les films cochons pour les bordels. Mais n'oublions pas que Gallimard aussi, bien sûr, est le délicat éditeur de Gide et de Proust, mais lui aussi a donné dans La Cochonceté et dans Ici Police ou Qui Police, je ne me souviens plus, du journal de Caniveau qui lui permettait de financer les délicates protestanteries de Gide. Il y a chez Nathan donc l'idée aussi de mettre en scène des grandes œuvres du répertoire classique français ou du répertoire contemporain en faisant des adaptations qui sont admirables. Bernard Nathan, évidemment, arrive, si j'ose dire, au mauvais moment. Il fait fortune, il manipule l'argent avec talent, avec parfois un peu trop de talent. Il est toujours à cheval sur trois ou quatre entreprises, pardon. Les gens lui en veulent. L'époque, évidemment, avec le vent mauvais qui souffle en France et en Allemagne, considère qu'un juif qui s'est enrichi dans le cinéma en ayant un peu trop d'affaires à gérer en même temps, en ayant créé un peu trop d'entreprises, est forcément suspect. Voilà, il est rattrapé par la patrouille. D'ailleurs, il reconnaît sa culpabilité financière, et uniquement financière, dans deux ou trois affaires. Il se retrouve emprisonné au moment où la guerre éclate. Il est déchu de sa nationalité. Il sera envoyé dans les camps de concentration. Il y mourra. Mais ce qu'il y a de fascinant dans cette histoire, qui est intéressante dans la trajectoire, qui est un peu une hagiographie. On sent, voilà, je me suis permis évidemment d'aller regarder sur Wikipédia et avec deux ou trois autres liens Internet. Bon, Bernard Nathan n'est peut-être pas l'homme aussi remarquable que nous décrit son scénariste. Pascal Bresson, il a peut-être malgré tout deux ou trois défauts, et il y avait quelques raisons de l'en vouloir, mais surtout il a été effacé de la mémoire du cinéma français, donc c'est quelqu'un qu'on découvre, alors c'est comme d'habitude, évidemment les universitaires le connaissent, mais on sent que Pathé et Gaumont n'ont pas véritablement considéré que Nathan avait droit de cité dans l'histoire du cinéma français. Il y en a quelques-uns comme ça, comme... Alice Guy aussi, qui avait été effacée par Gaumont. Et donc, ça fait partie de ces personnages qui ressurgissent. Et on se dit, mais oui, en fait, voilà, cette histoire officielle, écrite par la droite ou la gauche, écrite par les grandes familles d'industriels, parfois laisse de côté des personnages qui ont puissamment contribué, malgré tout, à faire avancer et l'industrie, et les arts, et la technologie. Et Bernard Nathan est de cela. Le dessin ne m'a pas totalement convaincu. J'ai trouvé. Enfin voilà, je ne peux pas dire que le dessin soit médiocre. Il y a quelques bonheurs d'expression, mais disons que c'est poussif. Et la bande dessinée est assez longue, hein, plus de 72 pages, non, 80 pages. Et voilà, au bout de 80 pages, le dessin un peu mal fait, soyons francs, voilà, avec quelques bonnes idées, mais un manque de style, quelque chose d'un peu faible et d'un peu mou. Le dessin dessert cette histoire qui est assez intéressante par ailleurs. Mais voilà, donc intéressez-vous à Bernard Nathan, feuilletez le livre La Tragédie de Bernard Nathan aux éditions Marabule, mais voilà, ne vous sentez pas tenu de l'acquérir immédiatement. Et de toute façon, en revanche, intéressez-vous bien sûr à l'histoire du cinéma telle que Rudsève l'a raconté, enfin l'éditeur Rudsève l'a raconté dans deux magnifiques albums consacrés à Gaumont Pathé ou Alice Guy aux éditions Casterman. Voilà, très bonne bande dessinée. Et voilà, Bernard Nathan, c'est une véritable tragédie, effectivement. C'est un album mémoriel qui est censé ranimer sa mémoire. Je ne suis pas certain que l'hommage est à la hauteur de ce qu'il aurait pu être. C'est le moment ou pas de vous dire, au fait, on papote, mais malgré tout, Radio Courtoisie n'existe que par vous. Et donc, si vous aimez cette émission, mais toutes les autres émissions, y compris les podcasts que nous avons lancés, les podcasts que nous allons lancer, qui seront directement disponibles sur la plateforme de podcast, eh ben, n'hésitez pas à aller tapoter soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr, et donner, même modestement, 1 euro, 2 euros, 5 euros. Voilà, c'est tout fait ventre, comme on disait auparavant, et ça nous permettra voilà, d'une part de financer Radio Courtoisie et d'autre part d'éviter quelques catastrophes comme le gel des comptes d'associations que nous promet Laurent Nunez pourvu qu'on ne soit pas exactement dans la ligne du parti, et il est évident que Radio Courtoisie n'y est pas tout à fait. Mon dernier album, j'en parlerai un peu brièvement, parce que c'est le premier tome d'une série en deux tomes. Et là, on a le premier tome consacré à l'évasion de Colditz. Colditz, c'est une forteresse allemande dans laquelle on enfermait les officiers français, américains, anglais, polonais, néo-zélandais, enfin tout ce qui tombait à l'intérieur de l'Europe nazie, et notamment voilà, tout ce qui tombait des avions de la RAF. Et donc l'un des cette évasion, donc l'évasion de Colditz raconte cette forteresse et raconte la manière dont les prisonniers s'en sont échappés. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les Anglo-Saxons qui se sont emparés de l'histoire de Colditz. Et celui qui écrit cette histoire sur la tentative d'évasion du lieutenant Mannheimer, par exemple, des lieutenants Thibault et Perrin, se rend compte que, en fait, Colditz est devenu la chasse gardée des Anglo-Saxons qui ont tendance à beaucoup parler de ce qu'ils ont fait eux, évidemment pas du tout de ce qu'ont fait les autres nationalités qui étaient enfermées, et notamment pas du tout des Français, ou alors à peine, qui apparaissent comme des figurants pittoresques, moustachus et sales, par rapport aux Anglais, évidemment, qui sont impeccables, de vrais gentlemen, comme dirait l'autre, et pétris de vertu, d'intelligence, de courage, d'abnégation, et de drôlerie, d'humour. Bon, évidemment, la réalité des Anglais est un peu plus sinistre, chacun le sait dorénavant, mais voilà une bande dessinée, d'abord, qui est palpitante. Alors, les récits d'évasion, depuis qu'on est petit, on aime ça. On a l'impression que c'est La Grande Évasion, mais à Colditz, donc La Grande Évasion, donc ce livre transformé en film avec Steve McQueen, avec donc des prodiges d'ingéniosité, des trucs très drôles, avec comme d'habitude le fait de se déguiser en femme pour sortir du camp, jusqu'à ce que quelqu'un trouve le déguisement tellement réussi qu'il essaye de draguer la dame qui se réveille à être un monsieur et un officier, et qui du coup est conduit, évidemment reconduit dans sa cellule, avec des Allemands qui sont raisonnablement caricaturaux, mais pas plus. Des Anglais qui sont juste ce qu'ils sont capables d'être, c'est-à-dire ni des monstres, ni des anges. Et le dessin est vif, le scénario est plein d'allant, on apprend à connaître les personnages. C'est une bande dessinée historique, au sens où elle nous raconte de véritables histoires, avec un personnage emblématique qui est celui qui se retrouve enfermé au début, qui est censé être un pilote français engagé dans la RAF, et qui lui, en fait, est une espèce de composé de plusieurs personnages. Vraiment, cette bande dessinée, L'évasion de Colditz, donc aux éditions Glénat, avec un scénario et des dialogues de Rubio, un dessin et des couleurs de Gendreau, et traduit de l'espagnol. Et c'est ça qui est le plus amusant, c'est qu'en fait c'est un espagnol qui a décidé de rendre hommage aux Français. D'ailleurs, il y a une énorme bibliographie, il y a 10-12 bouquins qui sont recommandés et qui sont tous publiés chez Grub Street, Robert L., la New English Library, Frontline Books, et il y a quand même un truc de brigand. Le colonel Le Brigand, Les Indomptables, aux éditions Berger-Levrault, 1957. Voilà. Et on a comme ça, et aussi un livre de Monsieur Le Ray, Première à Colditz, chez Arthaud en 76. Mais voilà, tous les autres bouquins, ce sont des Anglais, et on sent que les Anglais sont, comment dire, vraiment comme d'habitude, assoiffés de dresser leur propre couronne et leur propre statut. Là, ils apparaissent comme étant certains des protagonistes, mais pas les seuls. Et toutes les nations sont traitées du point de vue le plus historique possible, puisque là, il a fallu aux scénaristes monter une véritable enquête pour réussir à arracher dans des livres épars les vrais noms, les vraies péripéties, les vraies évasions, avec une évasion absolument épatante où un officier français, son ordonnance, lui qui est champion olympique, qui a de la branche et qui a un joli nom, s'entraîne, et puis un jour, toujours s'entraînant avec son ordonnance, brusquement l'ordonnance tombe à genoux, met ses mains sur le genou qui est levé, il n'est pas vraiment à genoux, il fait plutôt une génuflexion, et son officier court vers lui, prend appui sur la main, l'autre jette les mains en l'air, et voici l'officier qui s'envole littéralement, mais comme un champion de saut, et qui franchit, sous les yeux évidemment un peu ébahis, des Allemands le mur d'enceinte. Voilà. Et ce genre d'histoire, il y en a une demi-douzaine. C'est plaisant. Ce n'est que le premier volume. J'espère que le deuxième sera aussi bon. Et, voilà, il n'y a aucune raison qu'il soit mauvais, tellement le premier est aimable. Bon, là aussi, ce n'est pas non plus la bande dessinée du siècle. Mais voilà, histoire d'évasion, c'est plutôt très réussi. Chers amis, voilà, cette planche Casse-Zébule d'aujourd'hui est finie. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine avec Christelle Siec, où nous parlerons de tout à fait autre chose, mais quand même de bande dessinée. Merci et à bientôt.